Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Culture en ce vendredi 18 octobre, ravi d'être avec vous. Hier, nous avons abordé la succession des différents régimes politiques en France de 1789 à 1848. Aujourd'hui, dans notre chronique histoire, nous aborderons la naissance de la Grèce. Nous verrons comment un peuple soumis par un empire a pu obtenir son indépendance grâce à sa motivation et grâce à une aide extérieure. Pour commencer, l'Europe au XIXe siècle a été le foyer de nombreuses révolutions, notamment à Paris, à Vienne ou encore à Milan. Ces révolutions avaient pour but soit une modification du type de pouvoir politique, soit une volonté d'indépendance. Ce fut le cas pour la Grèce qui n'était pas un pays et qui était soumise à l'Empire ottoman. Cependant, les Grecs étaient une minorité nationale qui était un peuple majoritairement de religion chrétienne, alors que les Ottomans étaient, eux, musulmans. De plus, les Grecs ne voulaient plus être soumis au pouvoir ottoman. C'est pour cela qu'en 1822, le congrès d'Épidaure, qui fut la première réunion de ce qui est devenu aujourd'hui le Parlement grec, proclama l'indépendance de la Grèce. Le sultan ottoman Mahmoud II, n'étant pas pour l'indépendance de celle-ci, envoya ses troupes pour soumettre un millier d'insurgés grecs débardés sur l'île de Chios. La répression fait 25 000 morts, et le sultan montre alors son pouvoir et son refus de donner aux Grecs leur indépendance. En 1824, des comités de philhellènes se constituent en France, et des hommes politiques, des hommes d'affaires ou encore des artistes soutiennent les héritiers de la Grèce antique contre ceux qu'ils appelleront les barbares. Prenons l'exemple de Delacroix, célèbre peintre français qui a réalisé en 1824 une peinture de 4 mètres par 3,50 mètres environ, montrant l'atrocité du massacre de Chios. Dans ce tableau, on y voit en effet l'île de Chios pillée et ravagée, des habitants et des Grecs blessés ou morts. On retrouve un soldat ottoman sur un cheval pour montrer la supériorité des Ottomans dans ce tableau, mais aussi pour montrer leur cruauté. Enfin, on voit que le ciel est blanc et bleu, ce qui est une référence au drapeau grec. Et on connaît alors le point de vue de Delacroix. Il y a aussi Victor Hugo qui, en juin 1828, dénonce l'action des Ottomans. Cependant, en 1826, l'Angleterre et la Russie interviennent, puis ces pays sont rejoints par la France 2 ans après. Cette alliance n'est pas passée inaperçue. À Navarin, elle a infligé à la flotte ottomane une sévère défaite en octobre 1827. À la suite de ces événements, en 1829, un traité fut signé par le sultan Mahmoud II, le traité d'Andrinople, qui donne à la Grèce son indépendance le 23 février 1830. Excusez-moi, c'est le 3 février 1830. Donc, en 1830, grâce à une volonté d'indépendance et grâce à l'aide de l'alliance anglo-franco-russe, la Grèce devient un pays indépendant sans pression ottomane. Nous avons une question d'une auditrice qui nous demande qui a commencé véritablement à vouloir et à croire à cette indépendance. Et c'est une question très pertinente dont nous n'en avons donné que très peu d'informations. Le début de la révolte grecque a commencé grâce à notamment l'archevêque de Patras. On retrouve alors bien ce côté de religion différente, dont l'envie de devenir indépendant d'un pays majoritairement de religion musulmane. Merci à vous de nous avoir écoutés, c'est la fin de cette chronique portant sur l'histoire. En espérant avoir été le plus clair possible, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.